Et la synthèse des informations, bah oui, Clara Lecoq-Réal, c'est votre journal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre aujourd'hui et pour sa première, Emmanuel Macron se prépare à un marathon. Rencontres et discours à la chaîne avec l'avenir du multilatéralisme au cœur des débats. Présentation de Marie-Pierre Véraud à suivre.
Nous irons ensuite en Birmanie où les Rohingyas fuient toujours les violences. Ils sont notamment chassés par les bouddhistes de l'état d'Arakan. Le correspondant de France Culture a pu les rencontrer.
Dans ce journal également, l'inquiétude des routiers quant à la réforme du droit du travail. À l'appel de la CFDT et la CFTC, ils manifestent aujourd'hui.
Autre réforme, la PMA pour toutes. Là-dessus, le gouvernement semble plus prudent. Ce week-end, les militants de la Manif pour tous ont déjà montré leur agacement.
Après ce journal, dans le billet politique, Ludovic Piétenu s'intéressera aux élections sénatoriales. Elles auront lieu ce dimanche. La République En Marche est en mauvaise posture, peut-être parce que le parti s'est construit à l'envers, nous dira-t-il. Parler devant l'ONU, c'est parler au monde entier. Emmanuel Macron tentera de le faire en ce début de semaine à New York. Après une séquence internationale très dense dès son entrée en fonction, le chef de l'État français veut poursuivre son offensive diplomatique. Premier discours, donc, demain soir. Avant cela, il s'entretiendra avec Donald Trump, pour qui la 72e Assemblée Générale est aussi une première. Des dossiers brûlants au menu, Iran, Syrie, Corée du Nord. Et une priorité pour Emmanuel Macron, défendre le multilatéralisme. Marie-Pierre Véraud.
La question est récurrente, mais elle prend d'autant plus d'acuité cette année avec la méfiance affichée de l'administration Trump. Le multilatéralisme et le rôle de l'ONU dans le règlement des crises internationales seront au cœur du discours d'Emmanuel Macron demain devant l'Assemblée générale des Nations unies. Syrie, climat, Corée du Nord constituent autant de défis pour l'action collective, estime-t-on à l'Élysée. Des sujets qui animeront la rencontre entre le président français et son homologue américain dès son arrivée à New York, sans oublier la lutte contre le terrorisme et l'Iran. Paris s'inquiète des menaces que fait peser le président des États-Unis sur l'accord conclu par son prédécesseur. Mais Emmanuel Macron n'a pas été convié par Donald Trump à la réunion qu'il organise pour réformer l'ONU, dont les États-Unis, premier contributeur, assurent un cinquième du budget. Point central des bilatérales entre le président français et les présidents turcs et iraniens, la Syrie, le groupe de contact P5, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, devraient se réunir en marge de l'Assemblée générale mercredi et Emmanuel Macron recevra une délégation de l'opposition syrienne. Dans ses bagages, outre Jean-Yves Le Drian, le président français emmènera Nicolas Hulot. Il devrait officialiser le pacte mondial pour l'environnement présenté à Paris en juin, avec le souhait que l'ONU adopte une charte contraignante qui codifierait toute la législation internationale. Le financement de la force du G5 Sahel, enfin, en but aux réticences américaines, sera abordé dès ce lundi au niveau des chefs d'État, puis lors d'un débat sur le maintien de la paix, mercredi.
Marie-Pierre Véraud, à l'ordre du jour également de cette Assemblée Générale de l'ONU, l'exode forcé des Rohingyas de la Birmanie vers le Bangladesh. Un tiers de cette minorité musulmane aurait déjà fui les violences. Ils fuient en fait l'Arakan, un état de l'ouest de la Birmanie où les bouddhistes restent intransigeants. Et reportage pour France Culture de Rémi Favre.
Ce n'est pas qu'un problème de droits de l'homme, c'est aussi une question d'immigration illégale. Voilà ce que dit la communauté arakanaise bouddhiste qui souvent décrit les Rohingyas comme des clandestins en Birmanie. Tintou Hang dirige une ONG arakanaise, lui blâme les Rohingyas.
C'est une crise entre l'armée et les terroristes. Donc les gens qui ne posent pas de problème et qui ne sont pas terroristes, eh bien eux, ils n'ont pas à fuir leur village.
Autrement dit, les 400 000 musulmans qui ont fui au Bangladesh sont pour lui des terroristes. Tintou Hang ne veut pas octroyer de droits à la minorité Rohingya.
Ces gens sont des illégaux, ils viennent d'un autre pays, ils ne sont pas ressortissants de la Birmanie. Ils sont arrivés en Birmanie illégalement. Vous êtes entrés en Birmanie légalement avec un passeport et un visa, et vous comprenez, vous respectez les lois dans notre pays. Vous pouvez voyager en Birmanie librement, eux, ce n'est pas le cas.
Les organisations humanitaires ont un accès très restreint à l'état de l'Arakan. Teza Hang, un journaliste arakanais bouddhiste, trouve cela normal.
Les nouvelles ont montré que les organisations non gouvernementales et les Nations Unies soutenaient les terroristes. On a retrouvé des rations de nourriture distribuées par les Nations Unies dans des sacs à dos appartenant à des terroristes. Donc c'est compliqué, il vaut mieux bloquer l'aide humanitaire dans ces conditions.
Les journalistes ne peuvent pas aller faire leur travail sur place dans la Rakhine, sauf lors de voyages de presse organisés et encadrés par les autorités birmanes.
Rémi Favre à Rangoon pour France Culture. Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix et conseillère d'État en Birmanie, elle prendra la parole depuis le pays demain soir. Nous l'évoquions sur France Culture à la fin du mois d'août, cette mystérieuse affaire d'attaques acoustiques à l'ambassade américaine de Cuba. La fermeture de cette ambassade est à l'étude, a annoncé hier le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Plusieurs diplomates qui travaillaient dans ce bâtiment se sont plaints de maux de tête ou de perte d'audition. Le bâtiment avait été rouvert à La Havane en 2015 par l'administration Obama, symbole de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Les progrès de l'enquête sont rapides. Deux jours après l'attentat terroriste du métro à Londres qui a fait 30 blessés, des avancées importantes, dit le gouvernement, si bien que le niveau d'alerte a été abaissé. Deux suspects de 18 et 21 ans ont été arrêtés par la police. Ça signifie que la menace d'un nouvel attentat n'est plus imminente, mais elle existe bien encore. Les militaires qui appuyaient les forces de police ces dernières heures vont donc regagner leur caserne, car contrairement à la France, ce recours à l'armée en cas d'attentat reste exceptionnel chez les Britanniques. L'opération Sentinelle sert d'ailleurs de modèle. Une soixantaine d'officiers français ont été envoyés au Royaume-Uni pour participer à la formation des troupes. Antoine Gignot a rencontré l'un des généraux français.
Sous ses ordres, plus de 20 000 soldats, professionnels et réservistes, prêts à intervenir. Mais c'est surtout le niveau d'entraînement, de préparation des troupes que le général Hervé Bizzol est chargé d'évaluer. Il est arrivé l'an dernier au Royaume-Uni, avant la vague d'attaques terroristes.
Les Britanniques ont été très touchés par les attentats. Ils pensaient qu'ils étaient un peu à part et qu'ils n'allaient pas être concernés. Moi, je leur disais, attention, vous avez les mêmes problèmes. Et là, ça les a rattrapés. Évidemment, quand les attentats ont eu lieu, ils se sont intéressés à ce qu'on faisait. Parce que nous, on a déployé notre armée dans l'opération Sentinelle. Ils ont pas cette même expérience et ça les intéresse beaucoup.
Pas question pour autant d'organiser des patrouilles de militaires dans les rues. Les combats en Irlande du Nord, avant les accords de paix de 98, ont laissé des traces indélébiles. Du coup, les soldats viennent en appui sécuriser les sites sensibles. Et ce sont les policiers qui interviennent en priorité.
Ils sont performants, ils sont réfléchis sur l'armement de leurs officiers de police, etc. Ils ont évolué, on ne le voit pas forcément toujours, mais ils ont les mêmes ambitions de réactivité.
Cette réactivité saluée par le gouvernement après l'intervention rapide de la police à Parsons Green n'empêche pas la polémique. Les travaillistes à gauche parlent de protection au rabais. Ils dénoncent le manque de moyens des forces de l'ordre et la suppression de 20 000 postes de policiers entre 2010 et 2016.
En France, ce lundi sonne le début d'une semaine sociale chargée. Les routiers sont appelés aujourd'hui par la CFDT et la CFTC à des blocages et des opérations escargots. Manifestation contre la réforme du droit du travail, car selon les syndicats, elle touchera particulièrement les métiers des transports. En France, 97% des entreprises dans le transport comptent moins de 50 salariés. Thierry Douin préside la Fédération Transport à la CFTC. Et ce sont justement, selon lui, ces petites sociétés que les menaces sont plus grandes sur les salariés.
Dans les moins de 50, le chef d'entreprise aura une possibilité de revenir sur les points qui ont été sécurisés au niveau des conventions collectives, ne serait-ce qu'au sujet des rémunérations, c'est-à-dire que l'employeur pourra demain, par un référendum, signer un accord et déroger au droit conventionnel. Le pire de tout ça, c'est que nous, organisation syndicale, on n'aura même pas, je dirais, une commission qui pourra vérifier ce qui a été mis dans les accords, c'est-à-dire que ça passera comme une simple lettre à la poste. Pour le salarié qui a aujourd'hui des primes d'ancienneté, de travail pénible, des heures de nuit majorées, peut-être que l'on reviendra sur tous ces problèmes-là. On pourra aussi également avoir des salariés qui se retrouveront licenciés avec une procédure très simplifiée, un CERFA, des noms, des prénoms, des croix à mettre, et puis vous partez au prud'homme, vous avez votre indemnité qui est plafonnée, vous êtes tous traités de la même façon. façon. On est bien loin du respect de la personne humaine. Les salariés sont devenus des variables d'ajustement et des salariés jetables.
Thierry Douin de la CFTC, interrogé par Lucas Waldener. Jeudi, dans 3 jours, c'est la CGT, toutes branches confondues, qui appelle à manifester de nouveau contre les ordonnances avant le rassemblement de la France insoumise samedi. Des salariés de Nokia s'apprêtent à bloquer leur site de Saclay dans l'Essonne ce matin. Ils protestent contre la possible suppression de 600 postes en France au sein du groupe de l'équipementier Télécom. 4 mesures écologiques et solidaires. Dans le quotidien Libération ce matin, le ministre Nicolas Hulot détaille les premières mesures concrètes du plan climat présenté début juillet. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour Clara.
Nicolas Hulot évoque d'abord une prime à la conversion des véhicules, une prime à la casse, nouvelle formule.
Il s'agit d'une prime remaniée, en fait, élargie dans ses conditions et étendue à d'autres publics. Déjà, la transformation d'une prime de 500 à 1000 euros qui était accordée à des ménages à revenus modestes, elle sera doublée pour les propriétaires qui ne sont pas imposables. Ensuite, cette prime sera généralisée pour ceux qui ont un véhicule essence avant 97 et pour les diesels d'avant 2000. Enfin, cette prime jouera non seulement pour l'achat d'un véhicule neuf, mais aussi d'occasion, à une condition qu'il s'agisse tout de même d'un modèle récent. En tout cas, une mesure d'incitation à l'achat pour rajeunir le parc existant et à le faire de préférence en direction de l'électrique où la prime à la conversion, cette fois, passera à 2500 euros.
3 autres mesures également annoncées, Jean-Marc, elles incitent là encore une fois à investir dans les énergies renouvelables.
3 autres mesures, dont la plus significative est sans doute l'extension du chèque énergie, expérimenté dans 4 départements. Il sera généralisé en direction des ménages précaires, ceux qui ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie. Ce chèque sera versé automatiquement à compter de 2019 aux intéressés. Ça devrait concerner quelques 4 millions de ménages. Et puis sur la même ligne, un coup de pouce annoncé aux ménages aux revenus modestes qui veulent changer de chaudière de fioul très polluante, à condition tout de même de passer aux énergies renouvelables. Et puis dernière annonce, la transformation du crédit impôt pour la transition énergétique. Ce crédit utilisé notamment pour les travaux d'isolation, de logement, eh bien il va se transformer en prime plus simple, ce qui devrait notamment élargir le nombre de bénéficiaires.
Merci Jean-Marc Chardon du service économie de France Culture. Elles étaient gelées depuis 3 ans. Les pensions de retraite seront bien revalorisées cette année selon les Échos, plus 0,8% au 1er octobre prochain. Cela concerne la retraite de base. Pas de coup de pouce en revanche cette année pour les régimes complémentaires.
Les matins de France Culture, il est 8h12. C'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement avance avec prudence sur la PMA pour toutes.
Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, estimait que l'ouverture de la procréation médicalement assistée n'était pas la priorité. Pas notre actualité, a relativiser dans la foulée Marlène Schiappa. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme avait pourtant esquissé un calendrier la semaine dernière, expliquant que la promesse d'Emmanuel Macron serait tenue. Cafouillage gouvernemental qui a en partie rassuré le mouvement de la Manif pour tous. Il faisait sa rentrée ce week-end à Étiolles dans l'Essonne et Antoine Marette était sur place.
La manif pour tous cherchait à rebondir. Les hésitations gouvernementales au sujet de la PMA pour toutes sont une occasion inespérée sur laquelle la présidente du mouvement, Ludovine de la Rochère, entend bien surfer.
Il y a vraisemblablement un débat qui s'annonce, encore que pour le moment il n'y a pas confirmation parce que le gouvernement est divisé et les Français sont divisés. Donc si débat il y a, le débat s'annonce extrêmement difficile et je ne pense pas qu'on parvienne à un consensus.
L'élargissement de la PMA a d'ores et déjà été rebaptisé par le mouvement. Ici on ne dit pas PMA pour toutes mais PMA sans père. Cette absence du père est une préoccupation récurrente parmi les différents intervenants qui se succèdent à la tribune. Parmi lesquels la psychothérapeute Anne Schaub.
L'enfant se construit à partir de la différence entre sa mère et son père. Ce sont les fondements du tout petit depuis des millénaires. Et le priver du père, eh bien je pense qu'il y a là une amputation de son être qui portera certainement à conséquence dans toute sa vie relationnelle, dans sa vie affective, dans son être au monde finalement.
Pour d'autres membres de la Manif pour tous, l'absence d'un père va à l'encontre d'un droit de l'enfant à connaître ses origines. Le général Bruno Dary a particulièrement été marqué par un témoignage.
Je connais une jeune fille qui a une 20aine d'années et qui ne connaît pas son père. Et elle me disait, chaque fois que je vais dans une boucherie ou dans un restaurant, voilà la traçabilité, ce bœuf vient du Charolais, de ceci, de cela, et tout le monde assiste dessus. Et moi, je ne connais pas mon père.
La Manif pour tous a donc trouvé son nouveau cheval de bataille. Elle va lancer dans les prochaines semaines une campagne d'affichage contre l'élargissement de la PMA et elle promet de nouvelles manifestations si le gouvernement va jusqu'au bout de cette réforme.
Un reportage d'Antoine Marette pour France Culture. Une tendance qui se confirme chaque année. Gros succès pour les journées du patrimoine. 12 millions de visiteurs ce week-end pour 17 000 sites ouverts et une curiosité pour les lieux de pouvoir. Plus de 22 000 visiteurs notamment au au palais du Luxembourg. Enfin, la météo de ce lundi à venir. Météo d'abord dans les Antilles, puisqu'un nouvel ouragan approche. Après Irma, il s'appelle Maria et devrait passer au-dessus de la Guadeloupe en fin de journée. La Guadeloupe, qui est à partir de midi en vigilance rouge cyclonique. Météo France prévoit de fortes houles et un vent pouvant atteindre les 200 km/h en fin de journée. La Martinique, elle, est en vigilance orange. En métropole, les températures, elles ont plutôt tendance à baisser. Aujourd'hui, un lundi, comptez seulement 5 à 13 degrés ce matin, 15 degrés en bord de Méditerranée et sur la Corse, 5 degrés de plus globalement cet après-midi sur tout le pays. Le tout sous un temps maussade avec des pluies près des côtes basques et landaises et le soleil reviendra peu à peu de la Bretagne à l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Ouest dans l'après-midi.